les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone Nouvelle Formule Confinée. Comme chaque semaine, nous allons vous faire voyager avec des reportages et des invités. Nous irons à Montréal, dans le quartier de Leonard Cohen, avec l'écrivain Laurent Godet, qui vous emmènera devant la maison du chanteur. Nous serons avec le mauricien Carl de Souza, en duplex de l'île Maurice. Vous entendrez aussi un reportage avec lui au bord du lagon de Saint-Pierre, à La Réunion. Dépaysement garanti si vous n'êtes pas réunionnais. Le grand auteur belge Armel Job sera lui aussi avec nous pour un roman policier qui aborde les thèmes des secrets de famille et aussi du courage dans des situations critiques. Et puis notre séquence qui donne la parole à un éditeur avec le conseil d'un roman classique de sa maison d'édition. Aujourd'hui, rendez-vous avec Sophie de Closet des éditions Fayard.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont bien sûr avec nous. Depuis la fermeture des librairies, nous relayons les initiatives de ceux qui gardent le contact avec leurs clients et qui continuent à faire leur métier dans le respect des mesures de précaution sanitaire. On part tout de suite en France, à Carcassonne, dans la librairie Mose & Compagnie. Bonjour Mehdi Bouzouba.
Bonjour.
Vous avez organisé un circuit de livraison de livres avec des produits locaux dans plusieurs villages autour de Carcassonne. On en parlait la semaine dernière. Comment vous organisez-vous alors?
En fait, à l'origine, c'est une ferme maraîchère et arboricole en bio. Et avec le confinement, trop de monde venait à la librairie. Et donc, la ferme a demandé à une personne qui s'appelle Sarah Ménager si elle pouvait livrer dans les villages autour des légumes. Et elle s'est dit, quitte à le faire, autant proposer des produits bio et locaux, comme du miel, de la farine, du fromage, des plants, un artisan céramiste. Et du coup, j'ai intégré cette équipe en proposant des livres dans le secteur de la Montagne Noire sur une douzaine de villages.
Voilà, comme ça, on peut commander à manger et aussi des livres. Ça a été le cas. Hein. On avait déjà parlé d'initiatives comme celle-ci. Il y en a d'autres en France et à travers la francophonie. Quels sont les retours des clients chez vous alors?
Les retours sont très intéressants. Il y a beaucoup de monde. Il y a à peu près 130 clients par semaine. Et pour la librairie, il y a à peu près 10 à 12 clients. Ils viennent acheter des livres et ils trouvent ça très bien de changer cette manière de fonctionner. Avant, c'était le client qui venait à la librairie. Maintenant, c'est le libraire qui va à domicile. C'est vraiment une notion totalement différente et très appréciée.
Voilà, qui pourra être complémentaire dans l'avenir, éventuellement, pourquoi pas. Merci beaucoup, Mehdi. Merci. La librairie Mose & Compagnie, c'est à Carcassonne. À bientôt, Mehdi.
À bientôt.
Et cap sur la Tunisie à présent, pays où les libraires subissent aussi cette crise sanitaire. Bonjour Hassan Jayed.
Bonjour.
Vous êtes président du syndicat des librairies en Tunisie, également libraire à Tunis. Vous dirigez les 5 librairies culturelles implantées à travers le pays, culturel étant le nom de vos librairies. Quelle est la situation des libraires en ce moment chez vous, Hassan?
Bah écoutez, assez difficile, hein, comme tous les libraires du monde. Nous sommes en confinement depuis le 23 mars, précisément. Donc, aucune activité. Nous n'avons bien évidemment pas le droit d'aller au travail. Nous n'avons pas le droit de nous déplacer, sauf pour les courses essentielles. Voilà. Donc, on est en arrêt total depuis le 23 mars. Là, on vient de nous annoncer qu'on va pouvoir réouvrir à partir de lundi prochain, donc le 4 avril. On fait partie des commerces qui sont autorisés à ouvrir à partir de lundi. Donc cela, a priori, concerne uniquement les points de vente qui sont en dehors des centres commerciaux.
Et alors, vous avez commencé à vendre des livres en ligne, m'a-t-on dit, mais vous aviez des problèmes pour les livrer.
C'est ça. Disons que nous n'avons pas le droit de faire travailler le personnel. Donc nous sommes dans l'illégalité si nous faisons travailler le personnel. Donc à partir de là, c'est très compliqué de servir les commandes. Moi, personnellement, j'arrive à servir tous les livres qui sont dans les dépôts. Depuis le début du confinement, on tourne autour d'à peu près 800 visites par jour, ce qui est quand même assez impressionnant. Mais bon, voilà, on est très, très limité en termes de livraison. On en fait un peu, mais pas beaucoup.
Et donc tout va changer normalement à partir de lundi, c'est ça?
Voilà, normalement tout va changer, mais bon, on sait aussi que la consommation ne va pas reprendre comme avant, les gens, voilà, ça va être... Mais bon, on va dire que c'est mieux que rien. une petite bouffée d'oxygène.
Voilà, on vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup, Hassan Jayed. Merci. Merci d'être intervenu depuis Tunis. Bon courage à vous et on salue aussi tous les auditeurs de la librairie francophone qui nous écoutent en Tunisie. Bonjour, Josiane Letourneau.
Bonjour, Emmanuel.
Vous êtes libraire à Montréal, dans la librairie du Square. Quoi de neuf à Montréal, Josiane?
Quoi de neuf, en fait, toujours en confinement. Il fait gris, mais sinon, moi, ça va très bien. Je suis très contente d'être là.
Bon, écoutez, c'est déjà ça, la compensation avec l'émission. Bonjour, Claire Renaud.
Bonjour, Emmanuel.
Vous êtes libraire à Genève, toujours la pêche, Claire, dans la librairie Atmosphère. Vous représentez donc la Suisse. Genève revit peu à peu depuis le 27 avril ou pas encore vraiment?
Il revit grâce à certains petits commerces qui ont pu ouvrir, qui sont dits soins de la personne ou alors les fleuristes. Vous savez, je vais après faire un coup de gueule.
D'accord, non mais oui, ne dites pas tout. Oui, je crois qu'il y a un coup de gueule dans ce sens, pardon.
Oui, voilà. Écoutez, nous, on a pu continuer à recevoir les livres. J'ai eu de la chance, c'est-à-dire que les deux gros distributeurs de Suisse m'ont livré ce que je demande. Donc, du coup, je peux traiter les commandes des clients via Internet, téléphone ou autre. Et je fais des livraisons dans tout le canton de Genève. J'ai deux amis super qui peuvent m'aider.
Allez, la Belgique à présent. Nous avons notre fidèle et intrépide libraire de Bruxelles, de la librairie La Licorne. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Je sens que vous allez faire une déclaration d'amour à Armel Job tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment.
Je suis si prévisible, Emmanuel, si prévisible.
Bon, vous restez bien sûr tout avec nous. Si vous êtes libraire et si vous voulez nous parler d'une initiative positive, contactez-nous par le biais des réseaux sociaux. Facebook et Twitter, Emmanuel Kérad. Avant de rejoindre l'écrivain Carl de Souza depuis son lieu de confinement sur l'île Maurice et d'aller avec lui à La Réunion, voici le son de la francophonie, une nouveauté musicale qui est numéro un en ce moment dans un pays francophone. On part au Liban avec la chanteuse Elissa qui est numéro un partout. Elissa, musique francophone numéro 1 au Liban en ce moment. Une chanson qui fait du bien, je trouve. Je suis sûr que ça plaît aux libraires.
Moi, j'adore.
Ah, bien sûr.
Pour moi, c'est les vacances.
Avec un clip tourné dans un mode confiné à découvrir sur Internet et avec une chanteuse très particulière, on va dire. On écoute encore le refrain, Cyril?
Non, mais assez entendu, Emmanuel. Merci.
Non, il a pas l'air de vouloir. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais vous remettre le refrain sur mon enceinte de mon côté. Voilà, je fais ce que je veux dans mon home studio confiné, tout seul, sans le réalisateur. Et ce n'est pas Elissa, mais l'écrivain mauricien Karl De Souza qui est avec nous en duplex. Du Liban, on parle sur l'île Maurice, auteur de 7 romans, dont L'année des cyclones, paru aux éditions de l'Olivier. Bonjour Karl De Souza.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être dans cette librairie francophone Nouvelle Formule confinée. L'île Maurice confinée aussi, parmi les premiers états à l'avoir été d'ailleurs. Un confinement total avec les supermarchés et les boulangeries fermés même pendant 10 jours. Comment ça se passe pour vous, Karl, en ce moment ?
Écoutez, nous ne sentions pas beaucoup parce que d'abord, on était très inquiets des nouvelles qu'on recevait de l'étranger. Donc, je crois que pour ceux qui voyagent un peu dans leur tête, ceux qui rêvent, ceux qui font de la musique, etc., je crois que pour eux, c'est moins dur.
Oui. Nous allons entendre dans quelques instants un entretien-reportage réalisé sur l'île de la Réunion. C'était en octobre. On parlait d'insularité ensemble, justement. On vit tous une forme d'insularité en ce moment, en quelque sorte.
Ben, c'est un peu différent de notre côté. Je crois que c'est éventuellement un avantage parce que nous sommes habitués à l'insularité et notre insularité nous protège d'une certaine façon bien mieux qu'un pays qui est dans un contexte continental. Chez nous, il suffisait de fermer des robinets, de faire que les avions cessent de nous amener des visiteurs, et ce qui a été assez dur parce que l'île vit beaucoup de tourisme. Mais en même temps, c'était un avantage que nous avions par les temps qui courent. Je crois que le contexte insulaire et le contexte continental ne peuvent pas être comparés, ne peuvent pas être mis sur le même plan, certainement.
Mais quand je parle d'une forme d'insularité que nous vivons tous en ce moment, c'est-à-dire que où qu'on soit dans le monde, finalement, on est enfermé, ou en tout cas on est sur notre propre île, à vivre un confinement seul ou avec sa famille, mais dans un cadre très restreint. Donc ça ressemble aussi un peu à une île déserte, parce qu'on doit s'isoler.
Oui, la nôtre est encore plus déserte dans le sens que c'est un double confinement. En même temps, tout en ayant un œil sur les misères que vivent nos concitoyens et ou même des gens de par le monde, je pense que on peut voir ce contexte comme étant quelque chose qui révélateur. Dans l'éternel optimiste que je suis, essaye toujours de voir ce que ça nous révèle de nous-mêmes, ce que ça nous révèle de notre façon de fonctionner et ce que ça augure de ce qui va se passer au déconfinement. Allons-nous apprendre la leçon? Allons-nous retenir ce qu'il y a de meilleur chez nous et dans notre façon de communiquer comme nous le faisons actuellement?
Oui, vous dites paradoxalement d'ailleurs que le confinement est propice au voyage. Vous voyagez, vous, en ce moment, en écrivant sans doute, en faisant des recherches sur Internet. On peut voyager comme ça, de façon immobile?
Oui, on a l'habitude de voyager. Ceux d'entre nous qui voyagent toujours dans leur tête, de mon côté, ça m'oblige à rester encore un peu plus concentré sur ce que nous avons la chance d'avoir, parce que l'Internet, par exemple, nous donne la possibilité de faire des recherches dont nous n'aurions pas bénéficié si nous étions dans un autre contexte vivant il y a 40 ans de cela. Mmh. Alors, on est assez privilégié de notre côté pour ma part, je considère que je suis privilégié, c'est un gros avantage. Je suis même davantage en contact avec certaines personnes éloignées parce que ça nous force à mettre par écrit certaines idées, ça nous force à prendre des nouvelles et non, ça donne une certaine profondeur aux relations, je trouve.
Que voyez-vous par la fenêtre en ce moment, Karl De Souza, sur l'île Maurice? Racontez-nous un peu l'ambiance, comment est-elle cette île, comment vit-elle aujourd'hui là?
Alors, il faut vous dire que d'abord, je vis dans le nord de l'île, sur une des rares éminences qui est le mont Piton, qui était le sujet de mon dernier roman, qui raconte l'histoire d'une famille qui vivait sur cette propriété un peu perdue dans le nord. Et de ces hauteurs, on voit les îlots qui sont dans le nord de l'île. L'île plate, qui a été le sujet d'un roman à quarantaine de Leclésio. L'île ronde, qui est une petite île tout à fait intéressante parce que c'est un ancien cratère et qui s'est séparé de l'île principale assez tôt, qui est maintenant une réserve forestière, où il y a des palmiers uniques. Je ne vois pas des baleines comme j'en voyais de temps en temps, mais je n'en ai pas vu depuis quelque temps. Mais de loin, on voit, bien entendu, l'écume des plongeons des baleines. Oui, on peut le voir. Oui, on voit aussi beaucoup de bateaux, mais il n'y a pas de bateaux en mer en ce moment parce que tout est figé. Et, oui. Bien entendu, dans cet endroit qui était assez privilégié, où il y avait déjà le silence, il y a un vent très soutenu, il y a le silence, c'est encore plus silencieux maintenant, puisque que les gens ne circulent pas.
Vous vous souvenez de cet entretien ensemble sur l'île de la Réunion ?
D'abord, il faut vous dire que je suis amoureux de cette île voisine qui est si différente de la nôtre, qui est de formation plus récente et donc avec un volcan, avec des cirques qui sont majestueux. Et aussi, on parlait de confinement, mais on a aussi ces villes et ces villages qui sont beaucoup plus isolés que ceux de Maurice, parce que chez nous, le paysage est plus doux, les pentes sont beaucoup plus modérées et on a accès aux différents endroits de l'île beaucoup plus facilement. Là-bas, il y avait des quartiers, nous étions dans le sud. Quand vous êtes dans le sud, vous êtes vraiment coupé du nord.
Oui, c'est vrai.
De Saint-Denis et du reste de l'île, oui. Donc, nous avons des îles qui sont quand même très complémentaires, très différentes.
Bon, on va écouter un extrait de cet entretien-reportage réalisé ensemble en octobre. Vous veniez d'obtenir le prix Athéna 2019 sur cette île intense. Merci beaucoup, Carl de Souza.
Merci, Emmanuel.
Votre dernier roman, L'année des cyclones, est paru aux éditions de L'Olivier. On en parle tout de suite. Faites attention à vous, Carl. Bon week-end sur l'île Maurice.
Bon week-end à vous aussi, Emmanuel.
Au revoir, Carl.
Au revoir, Emmanuel, et merci. Hein. Allez, prenez soin de vous.
Et nous voici donc arrivés sur le port de Saint-Pierre, ici à La Réunion. Face à nous, il y a le lagon de la plage de Saint-Pierre, avec les rouleaux que vous entendez probablement derrière moi, puisqu'il y a la barrière de corail, évidemment, qui permet d'avoir cette belle plage de Saint-Pierre. Avec nous, il y a Carl de Souza. On s'est un peu abrité, on est assis par terre, pour tout vous dire,
oui.
Parce qu'il y a une grande jetée qui s'avance sur la mer, et on est tout au bout de la jetée, il y a beaucoup de vent.
Il y a beaucoup de vent, il y a l'océan Indien devant nous, il y a un soleil face à nous qui nous éblouit un peu.
Alors vous racontez une tragédie familiale dans votre livre. Il y a deux lieux importants, les champs de canne à sucre, il se passe quelque chose de grave dans cette famille, dans ce champ de canne à sucre, et puis il y a aussi la mer. Ce sont deux lieux qui sont fondateurs pour vos histoires, pour vous aussi, Carl de Souza.
Ce sont deux lieux qui sont présents dans pratiquement tous mes romans. La frontière entre la mer et la terre m'intéresse particulièrement. C'est comme les frontières que nous avons dans nos vies et entre le passé, le présent et le futur. Le présent m'intéresse de plus en plus, mais pour cela, il faut que je fasse référence au passé qui est celui d'une famille. Je ne dirais pas de ma famille parce qu'elle est toujours embuée dans une espèce de fausse fiction où on...
Il y a un peu de vous quand même alors.
Ah, il y a énormément de moi parce qu'elle se situe dans un endroit où j'habite actuellement, qui est Montpiton, mais elle est inspirée de choses qui nous viennent du plus loin de notre histoire familiale, oui.
Il y a Hans, le plus jeune, qui observe comme ça ses aînés. Il flâne, il est plein de fantaisie, mais à l'âge adulte, il va commettre un acte irréparable qui va bouleverser sa vie. On n'est jamais à l'abri d'une faute dans sa vie, Carl de Souza, même quand on habite sur une île, dans un contexte favorable.
Je ne suis même pas sûr que ce soit une faute. Je crois que c'est la vie qui nous pousse à des actes. Mais c'est un acte qui est assez mystérieux, qui va faire basculer toute sa vie et qui va faire aussi... qui va influencer toute la vie de la famille.
Les lieux sont très importants, il y a l'insularité aussi, qui est en filigrane de votre récit, la propriété sucrière en premier. Il n'y a donc pas besoin, finalement, de vivre sur une île, comme ici, sur l'île de la Réunion ou sur l'île Maurice, pour connaître l'insularité. Un simple lieu peut suffire ?
Je crois, oui, je crois bien. Je crois qu'on peut s'isoler n'importe où, et je crois que cet isolement est absolument nécessaire aujourd'hui à notre survie, j'allais dire universel, c'est dans la mesure où il y a un concentré d'humanité dans une île et que les gens se côtoient, que nous avons des interactions qui sont, pour l'optimiste que je suis malgré tout, extrêmement productrices d'avenir pour l'humanité, mais aussi de friction forcément.
On va se lever, on va aller vers la plage, Carl de Souza, on s'est abrité, on va essayer d'affronter le vent à nouveau. Que vous entendez derrière, et je vais vous faire entendre quand même les rouleaux derrière moi. Bon allez, on va se diriger par là-bas, Carl, parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Imaginez le rêve des surfeurs, par exemple, avec ces rouleaux derrière, c'est vraiment ça. Voilà, il y a le port de Saint-Pierre devant lequel nous passons, puisque cette digue, évidemment, longe le port,
oui,
protège le port aussi.
L'île intense, c'est l'île de la Réunion avec du vent, avec les éléments naturels, c'est normal. Le son est dégradé, mais c'est ça la vie de la Réunion aussi, Carl de Souza. Et puis face à nous, on a le relief de cette île, car il y a évidemment...
Oui, cette chaîne de montagnes qui est devant nous et des nuages qui sont plus bas que la montagne. Sinon, c'est fantastique, oui.
Et donc cette plage de Saint-Pierre, là, juste en face, on va être un petit peu plus à l'abri pour terminer cet entretien.
On a débarqué, pas maladie, il faut ni def notre cheveux, ni éclaircir notre peau. Ni dégage gosse français, pour bonne patron s'oreille, la pas trop ennuyée. Pour la France, pour la France, pour la France, pour la France, pour la France.
Voilà, on est sur la plage, entre l'eau et les plagistes, qui font des signes d'ailleurs certains, parce qu'ils nous ont un peu repérés, hein, parce qu'on est carrément au milieu. On a les touristes et puis évidemment les habitants de l'île qui sont là, au bord de l'eau. Bon, il y a les cyclones aussi, un cyclone qui un jour va dévaster l'île Maurice, un cyclone qui peut tout emporter. C'est vrai que ces îles de l'océan Indien, comme celles de la Caraïbe, elles sont fragiles, le danger guette. Avec ces fameuses années de cyclones.
Alors, les cyclones pour Maurice, c'est, et pour la Réunion, et pour nous aussi en général, nous sommes sur la trajectoire des cyclones. Vous disiez que la mer lave, mais les cyclones lavent aussi des mémoires. Les cyclones ont cause ce qui fait la végétation de notre île, où le bois qui vient des Mascareilles est un bois très dur qui avait attiré les premiers colons hollandais, qui venaient pour le bois et pas pour autre chose. Et ces mêmes cyclones qui forgent l'île et sa flore, ces mêmes cyclones aujourd'hui font que les populations doivent rester solidaires et accepter leur humanité et accepter qu'ils sont aussi sujets ou assujettis au bon vouloir du climat.
Entendez les enfants derrière nous sur cette plage de Saint-Pierre et probablement la mer, les rouleaux derrière. On était tout près tout à l'heure au bord de cette jetée. Et là, la mer qui s'avance un petit peu vers nous. On va se reculer, Carl de Souza, et on va terminer avec cette île Maurice, qui est une île résistante. Je dirais même une île de la résistance. Jean-Marie Gustave Le Clézio en parle très bien dans son roman Alma, où il revient sur ses origines et sur cette île aussi, qui a fait le choix de la langue française également. Une île qui fut française, qui a été anglaise ensuite, et on parle le français, vous en êtes l'illustration vous-même, parce que vous parlez et vous écrivez en français.
J'écris en français, mais c'est une île aussi qui s'assume de plus en plus. J'écris en français, en anglais et en langue créole, cette langue qui a été longtemps décriée du temps, alors qu'elle était vraiment la chair même de cette île, l'élément unificateur qui faisait que toutes les sections de la population pouvait s'exprimer. Ça a certainement ses origines dans l'esclavage, des origines extrêmement dures, mais en même temps, aujourd'hui, ce sont des facteurs qui s'assument, ce sont des richesses qui s'assument, et le côtoiement...
Qui s'ajoutent,
oui. Qui font aujourd'hui cette patte dans laquelle vivent les populations des îles.
On va quitter cette plage. Merci beaucoup, Carl de Souza. L'année des cyclones est parue aux éditions de l'Olivier et c'est le prix Athéna 2019, ici à La Réunion. On quitte l'île de la Réunion, mais le grand voyage francophone continue avec Armel Job en Belgique et Laurent Godet à Montréal. Avant cela, on reste au soleil avec l'antillais baroudeur David Walters. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Where love, where love, cause j'ai du fait. Saudi. Pesa.
C'était David Walters avec la participation de Sean Couty et ce nouveau titre « Bouée de l'eau ».
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et bonjour Armel Job.
Bonjour.
Comment allez-vous ? Où êtes-vous en ce moment, Armel ?
Je suis chez moi, dans ma maison, à la campagne, en Belgique.
D'accord. Vous avez publié en ce printemps La Disparue de l'île Mont-Saint aux éditions Robert Laffont, un roman policier dans la tradition belge, je dirais. La psychologie des personnages, l'atmosphère des lieux, tout y est. Vous faites un peu du Simenon, Armel Job.
Oui, on le dit souvent. D'ailleurs, j'ai vu récemment dans la presse française qu'on m'avait surnommé le Simenon belge. Enfin, je rappelle quand même que Simenon était déjà belge, mais bon, voilà.
Oui, c'est certain, oui, c'est sûr. Alors, une jeune femme de 32 ans a disparu, selon sa mère. Pourtant, il y a Jordan, un facteur de piano, un artisan qui accorde et livre ses pianos dans la banlieue liégeoise, qui est le dernier à l'avoir vue au bord d'un parapet à 23h, 10 jours avant la déclaration de sa disparition. Pourquoi est-on inquiet pour cette jeune fille ?
Sa mère est particulièrement inquiète. C'est une jeune fille un petit peu solitaire qui a manifestement des problèmes existentiels. Sa mère donc se fait du souci pour elle. La jeune fille vit seule et elle n'a pas donné signe de vie depuis une dizaine de jours. Donc elle signale à la police.
Oui, voilà, c'est ce qui se passe. Ça commence comme ça d'ailleurs, on ne peut pas évidemment tout raconter, mais c'est un livre sur les secrets intimes, sur les drames personnels aussi vécus, des drames qui engendrent à leur tour des secrets ou des non-dits. Comment on vit avec ça ? Comment on vit avec les secrets, Armel Job ?
Je pense que très souvent le secret est le ressort d'un roman. Les secrets empoisonnent notre existence, je pense. Quand il s'agit de secrets aussi lourds et aussi douloureux que ceux auxquels Eva est affrontée, ben forcément la vie est difficile. Et la seule manière de s'en sortir, c'est de pouvoir se libérer de ses secrets. Et c'est justement ce qu'Eva n'a pas pu trouver dans sa vie.
Ouais, ouais. La mère d'Eva, cette jeune fille, donc, dira cette phrase. Les problèmes familiaux ne regardent que la famille. Et pourtant, au sein des familles, on le sait tous, il y a toujours des choses à découvrir.
Oui, la mère d'Eva ne connaît pas vraiment sa fille. C'est ce qu'elle va constater au cours de cette période où on est à la recherche d'Eva quand elle a disparu. Évidemment, elle essaye de se remémorer le passé, son passé avec sa fille, mais peu à peu, elle constate qu'elle est passée à côté de sa fille. Elle était elle-même tellement encombrée par ses propres problèmes, par son divorce, par les difficultés qu'elle a eues à vivre, qu'elle n'a pas été attentive aux problèmes de sa fille. Elle ne les a pas vus, les a pas compris.
Mais oui. Alors l'enquête va dans un premier temps accuser Jordan, le facteur de piano. Mais on va vite s'apercevoir qu'un voisin n'est pas très net et que lui aussi doit être impliqué d'une façon ou d'une autre. Vous pointez là, Armel Job, l'un des traumatismes belges. L'accusation à tort et les affaires de crimes sexuels sur mineurs. Ce sont des sujets qui hantent les auteurs de polar belges encore aujourd'hui.
Je pense qu'en Belgique, il est très difficile d'évoquer le genre de situation que j'évoque dans mon roman sans qu'automatiquement les terribles affaires des années 90 ne réapparaissent. L'affaire du trou, les différents enlèvements de jeunes filles, les disparitions des petites filles, toutes ces victimes. Je crois qu'il y a eu un véritable traumatisme en Belgique à ce sujet-là. Dès qu'il est question de disparition, les fantasmes de cette époque réapparaissent inévitablement.
Ouais, ouais. On va laisser la parole aux libraires qui ont lu votre roman Armel Job, La Suisse, la Belgique et le Canada. Josiane Letourneau pour le Canada, allons-y, c'est à vous.
Alors, ce qu'il y a de parfaitement magique avec ce roman, c'est la facilité déconcertante avec laquelle on y plonge. Évidemment, le roman policier est devenu un genre beaucoup plus riche ces deux dernières décennies et votre livre est le parfait exemple d'une histoire captivante dont le moteur n'est pas simplement que la poursuite du coupable. Vous avez créé des personnages nuancés, profondément et irrémédiablement humains, qui doivent leur âme à la qualité de votre écriture. C'est un véritable roman policier et pour moi la découverte d'un grand auteur.
Merci, Josiane.
Claire Renaud, à Genève, ce roman vous a-t-il plu?
Oui, beaucoup. Tout est mystère dans cet ouvrage et j'ai été très vite absorbée par les personnages. Mais quand on essaye de cerner quoi que ce soit et d'avoir un tout petit peu un esprit rationnel pour faire un résumé ou essayer de comprendre quelque chose, il y a tout qui s'évapore et qui s'échappe. J'ai trouvé que ce roman était très envoûtant et il m'a absorbée tout de suite.
Bien, enfin, la plus facile pour conclure, Armel Job, votre première fan chez les libraires de toute la Belgique, c'est Déborah Damblon.
Pas de toute la Belgique, Emmanuel, du monde entier. Parce que Monsieur Job, mais quel talent! Quel talent! Vous êtes incroyable, je trouve. Vous avez besoin de quelques mots, comme ont dit mes camarades, et puis vous chopez le lecteur. Vous ne le lâchez plus, mais jusqu'à la fin. Quel que soit le sujet, trois phrases, on est pris. Mais en plus, votre plus grand talent, avant celui d'attraper le lecteur et de raconter des histoires dont on a envie de connaître la fin, je trouve que c'est de dépeindre l'ambiguïté de l'âme humaine et puis de la faire exister dans un monde, un vrai monde, un monde où on sent vivre, où on va s'identifier aux personnages, à leurs envies, à leurs affres, à leurs douleurs. Et puis en plus, ça c'est moi qui vous parle, souvent dans vos livres, baissez la voix exacte de notre petite Belgique. Vous savez, un peu étroite, mais si vivante et puis si attachante.
Merci Déborah.
Voilà, Déborah, fan, c'est confirmé. Alors je ne sais pas si c'est le confinement, mais je trouve les libraires particulièrement doux en ce moment. Et pourtant, ce livre, il y a des choses qui se répètent un peu dans les situations de l'enquête. C'est une enquête molle, Armel Job. Il n'y a pas beaucoup de rebondissements inattendus. On dirait que vous aimez plus fouiller la psychologie des personnages que creuser l'histoire prétendue criminelle.
Oui, je suis même étonné qu'on qualifie mon roman de roman policier parce que moi, je ne veux pas du tout faire du roman policier. Mes romans ne sont pas des romans policiers. Je ne respecte pas les règles du roman policier. Mon enquêteur n'est pas un enquêteur brillant. Il se trompe en permanence. Il est de mauvaise foi. Il veut surtout faire carrière. Il se plante du début à la fin. Il n'a rien du tout compris à ce qui se passait. Il ne cesse d'arrêter des gens qui sont parfaitement innocents. Donc ce n'est pas mon intention de faire du roman policier. Le caractère policier de mon roman n'est qu'un prétexte à faire apparaître des personnages.
C'est vrai que bon, c'est un roman aussi qui explore l'âme humaine. C'est un roman sur le courage, par exemple. Le courage d'avouer des choses à ses proches et le courage d'aider l'autre dans une situation critique. On va pas tout raconter une fois de plus, mais on n'a pas tous ce courage-là, Armel Job. Le manque de courage peut, dans certains cas, traumatiser une vie.
Oui, certainement. Je pense qu'a priori, nous imaginons tous que nous sommes des gens courageux. On se dit toujours que si on était confronté à une circonstance dans laquelle on devrait faire preuve de courage, certainement on ferait preuve de courage. Mais la vérité de la vie, c'est que quelquefois, devant une circonstance où vraiment il faudrait faire preuve de courage, ben nous ne trouvons pas les ressources en nous-mêmes. On se fait beaucoup d'illusions sur ce qu'on est soi-même. Je crois qu'on découvre très souvent dans la vie, malheureusement, qu'on n'est pas à la hauteur des événements.
Et oui, c'est ça. Et c'est le cas de tout le monde, hein, d'ailleurs. On est tous passés par là à un moment. Le plus difficile, et on le voit dans votre histoire, c'est d'aider ceux qui sombrent. Et ceux qui sont ce que l'on appelle des causes perdues. C'est très dur, ça, de relever quelqu'un. Et de le maintenir, surtout.
Oui, bien sûr, c'est ce que veut faire Jordan, mon facteur de piano. C'est un homme extrêmement généreux, bienveillant, attentif. Il fait tout ce qu'il peut pour aider Eva. Mais il y a aussi ce côté très, très difficile dans la générosité. C'est que, quelquefois, quand nous nous montrons généreux, nous pouvons nous apercevoir que la personne qui est bénéficiaire de notre générosité veut s'accaparer notre personne. Vous lui tendez la main, mais elle vous arrache le bras. Et c'est aussi un des drames de ce roman. Ce n'est pas seulement l'histoire d'Eva, c'est aussi l'histoire de son sauveur, finalement.
Eh oui, ouais, c'est vrai. Bon, on va s'arrêter là, sinon on va trop en dire. Merci beaucoup, Armel Job.
Merci, Emmanuel. Merci mille fois.
Merci. La disparue de l'île Mont-Saint est parue chez Robert Laffont. À bientôt, Armel, et soyez prudent dans votre campagne belge, comme vous avez dit au début.
Merci beaucoup, Emmanuel. À bientôt.
À bientôt. Avant de rejoindre la directrice générale des éditions Fayard, Sophie de Closet, et d'aller à Montréal avec Laurent Godet, voici le nouveau titre de Christine and the Queens. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Sur ma peau, c'est toi, c'est toi, c'est toi.
C'était le nouveau titre de Christine and the Queens, « Je disparais dans tes bras ». C'est le titre dans la librairie francophone. Chaque semaine, nous donnons la parole à un éditeur. On garde le lien avec la chaîne du livre, les libraires, les lecteurs, les auteurs et donc les éditeurs et une éditrice aujourd'hui. Bonjour Sophie de Closet.
Bonjour Emmanuel Kérad.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice générale des éditions Fayard. Les éditeurs, les auteurs et les libraires envisagent la fin du tunnel. Comment vous voyez les choses de votre côté ?
Écoutez, on s'active et on essaye de se convaincre qu'on va de nouveau pouvoir proposer des livres de qualité à des lecteurs nombreux grâce à des libraires en forme. Mais c'est vrai que la réalité du terrain est incertaine, assez inquiétante et assez sombre et on espère très vite qu'on retrouvera des circuits de distribution et diffusion, parce que une des inquiétudes, c'est que beaucoup de libraires, malheureusement, dont vous savez à quel point ils sont essentiels, ne puissent pas réouvrir, ou en tout cas sortent de cette période en très mauvais état, et ils sont absolument indispensables à notre activité.
Oui, effectivement, les libraires qui inquiètent beaucoup, beaucoup hein, le monde du livre. Vous avez voulu, avec Fayard, mener des initiatives pour garder aussi le contact avec les lecteurs. Il faut garder le contact avec les libraires, mais aussi avec les lecteurs, avec les plus isolés aussi, dans les maisons de retraite médicalisées, par exemple, Sophie.
Oui, on a des initiatives personnelles de membres de l'équipe de Fayard qui sont assez épatants et qui lisent des livres à des personnes isolées. On a aussi essayé de proposer des parcours de lecture de classiques qu'on publie notamment dans la collection, la petite collection des éditions Mille et une Nuits, pour essayer d'avoir des chefs-d'œuvre du passé pour éclairer ce quotidien. Et puis essayer de donner des nouvelles et de prendre soin de nos auteurs et de nos lecteurs par tous les moyens virtuels possibles. Ensuite, rien ne remplacera quand même le contact humain et il tarde à tout le monde de pouvoir se retrouver et se voir.
Bon, on vous a demandé, Sophie de Closet, de choisir un classique, justement, qui est au catalogue de Fayard. Lequel conseillez-vous de lire ou de relire ?
Eh bien, c'est pas un livre en particulier, mais une œuvre. Soyons ambitieux, on a du temps. C'est l'œuvre de Boris Vian, dont on fête cette année le centenaire, et il y avait un nombre insensé et infini de manifestations extrêmement joyeuses et à l'image de Boris Vian qui étaient prévues, lesquelles ont été reportées ou annulées malheureusement pour la plupart, mais il reste son œuvre, ses chansons, ses romans, ses nouvelles, et notamment évidemment L'écume des jours, ou encore un inédit de Vian qui était oublié dans un carton, le début d'un roman noir qu'il avait écrit pour Gallimard, que Loulipo s'est mis à plusieurs mains pour finir et qu'on avait publié en janvier, qui s'appelle « On n'y échappe pas ». Et je pense que Boris Vian, par son impertinence, son humour un peu noir, son côté caustique, est un excellent compagnon de confinement.
Des voyages fantasques avec Boris Vian, effectivement. Merci beaucoup Sophie de Closet.
Je vous en prie, merci à vous.
Merci d'être intervenue à distance dans la librairie francophone. Et faites attention à vous surtout. À bientôt Sophie.
Et vous aussi, à bientôt Emmanuel. Au revoir.
Au revoir.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
Ici Radio-Canada première.
RTBF la première.
France Inter.
Et un autre voyage dans cette émission avec une escapade à Montréal dans un lieu devenu culte autour de Leonard Cohen.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy.
Bonjour Laurent Godet.
Bonjour Emmanuel.
Nous sommes à Montréal et on vous a demandé de choisir un lieu qui évoque quelque chose pour vous. C'est un lieu emblématique pour les Canadiens, pour le monde entier finalement. On est sur une toute petite place. Oui. Il y a juste à côté de nous un petit kiosque à musique. Derrière, une rue passante avec plein de voitures. Devant nous, on a un petit immeuble tagué, un peu abandonné. Et juste en face, il y a la maison.
La maison absolue de Montréal, c'est-à-dire la maison du grand Leonard Cohen, qui est toute une petite maison qui a l'air de rien, dire vrai, qui est en briques grises, un peu improbable, pas du tout la grande maison de la star. Et je trouve qu'il y a quelque chose de cette humilité qui est là, dans sa maison. Et puis cette petite place, je l'aime bien, parce qu'elle est à l'image de Montréal parfois, c'est-à-dire elle est pas chichiteuse. Voilà, c'est simple, c'est sympa, il y a juste quelques carrelages portugais, parce qu'on est sur la place du Portugal.
Voilà, exactement.
Voilà, qui est à l'angle, pour ceux qui connaissent, de la rue Saint-Laurent et de la rue Marianne. Rue mythique, puisqu'il y a tout un débat pour savoir si la fameuse chanson de Leonard Cohen, So Long Marianne, a été écrite en l'honneur de son égérie, Marianne Hélène, ou parce qu'il habitait juste à côté de cette rue. Et voilà, j'aime bien cet endroit, ça me rappelle les chansons de Leonard Cohen, et puis je trouve que c'est paisible en fait.
Justement, il y a un écriteau parce qu'on a refait un petit peu la signalétique, la signalisation de la rue, et on a rajouté un écriteau qui fait référence à la chanson de Leonard Cohen.
Voilà, sur l'écriteau de la rue Marianne, les gens ont rajouté « So long Marianne and Leonard » et je trouve ça vraiment... C'est très présent, je trouve, à Montréal. Il y a 200 mètres plus loin, il y a un immeuble de 9-10 étages sur lequel il y a une énorme peinture murale où on voit la tête de Leonard Cohen. Oui. Et je trouve que c'est cette manière de... qu'à la ville d'afficher sa fierté vis-à-vis d'un de ses fils. Je trouve ça assez touchant, en fait. Je trouve ça assez beau. J'imagine que les gens du quartier ici ont des souvenirs de Leonard Cohen et que c'est assez précieux d'une ville qui célèbre les siens comme ça.
Alors venez, on va aller dans le petit kiosque parce qu'il m'intrigue. C'est très joli, en fait, comme endroit. Il y a ce kiosque et cette place qui est toute petite, illuminée. On a des drapeaux, là. Ça fait un peu...
Dont un drapeau portugais.
Dont un drapeau portugais, voilà. Ça résonne un peu. Ah oui, c'est drôle. On a un son très particulier ici. Et puis, il y a, juste en face de nous, Laurent Godet, un endroit qu'affectionnait Leonard Cohen, la maison du Bagel. Il y a plein de maisons du Bagel ici, Saint-Viateur, enfin on va pas citer tous les noms. Et puis il y a celui-ci là qui est juste en face, dans lequel Leonard Cohen allait.
Et puis on est rue Saint-Laurent, donc il y a un peu plus bas, pas très loin, il y a le fameux Deli Schwartz, où on peut manger des sandwichs kasher avec des gros cornichons, le pickles, qui est un peu mythique à Montréal.
Avec donc, la fameuse viande fumée.
Avec la fameuse viande
smoked fumée. Smoked meat, exactement, comme on dit en francophonie.
Donc ouais, non, il y a tout ça, il y a ce mélange de communautés portugaises, il y a des tas de petits restos des Açores au coin, et puis aussi de la communauté juive québécoise, donc ça fait un beau mélange, effectivement.
Alors Leonard Cohen avait des habitudes ici, il faut savoir qu'il sortait de sa maison, qu'il allait dans le quartier, et qu'au moment de sa mort, il y a eu une grande ferveur populaire, et les Canadiens, les Québécois se sont retrouvés ici sur cette place, ont fleuri toute sa maison, et on va aller voir, tiens, comment est la maison aujourd'hui.
Juste devant, allons-y,
allez.
Allons-y,
allons voir. Dance me to the end of love. Dance me
to the end. Et là, on arrive, donc c'est quasiment le bâtiment, mais je pense que c'est plutôt des voisins qui ont mis là, sur leur fenêtre, une série de petites photos.
Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, exact.
Dont un portrait de Leonard Cohen, enfin un deuxième à côté. Et voilà, ça rencontre toujours la même chose, le bonheur qu'ils ont eu de cette proximité, j'imagine. C'est chouette, c'est tout simplement chouette.
Vous étiez fan de Leonard Cohen, vous êtes fan de Leonard
absolue,
Cohen,
mais
c'est
oui,
vrai
absolue, oui, oui, oui. Et puis je disais, j'ai eu la chance de le voir, je me souviens d'un concert à l'Olympia, d'un autre à Bercy. C'était le vieux Leonard Cohen, plus de 70 ans, et il avait tout honnêtement pour faire un concert où il arriverait 45 minutes en retard et où le concert ne durerait qu'une heure. Les deux fois où je l'ai vu, moi, le concert a duré 3 heures. Il donnait tout ce qu'il avait, une espèce de générosité totale que je trouve extrêmement... humble et cash, et j'aime beaucoup ça, ouais. C'est une belle leçon, je trouve.
Elle est où ? Là, juste là, ouais. Le 28, voilà, avec une porte grise.
Il y a encore une rose un peu fanée qui a été déposée.
Ah oui, exact. Rose rouge.
Rose rouge.
Une grande porte peinte en gris avec ce numéro 28. C'est éclairé à l'intérieur. Enfin, c'est très émouvant de se retrouver là.
Ben oui, oui. Et puis aussi, si on va sur Saint-Denis, qui est juste à côté, d'une manière plus générale, c'est vrai qu'on y a plein d'endroits comme ça où sur les murs de la ville, il y a des fresques murales. Il y a quelque chose sur Dany Laferrière, sur Saint-Denis. Quelque chose aussi sur Michel Tremblay. J'aime bien la manière que Montréal a de fêter ses auteurs. Ouais. C'est assez réjouissant.
Mais alors toute votre œuvre, Laurent, oui, elle est empreinte comme ça des vibrations du monde. Et vous êtes en connexion avec le monde. Vous êtes difficile à joindre, hein, parce que souvent on se dit on va boire un verre ensemble, on va dire la vérité aux auditeurs, et on n'y arrive jamais, parce que vous êtes tout le temps, partout dans le monde.
Oui, mais vous aussi, Emmanuel.
Oui, mais moi de vous, hein. Moi je reste sur la francophonie.
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait que j'aime bien que mon écriture se nourrisse de l'ailleurs, et c'est vrai que c'est souvent l'ailleurs qui me donne envie d'écrire. Et puis il y a le fait aussi que mes mots vont être entendu traverser l'Atlantique et être attendu au Québec ou à Beyrouth quand il se passe quelque chose. C'est vrai que ouais, ça m'émeut beaucoup là, que les mots voyagent plus vite que l'auteur. J'ai du mal à suivre des fois, mais c'est quand même plutôt assez chouette. Ouais.
C'est vrai que vous avez cette œuvre considérable aujourd'hui qui a marqué la littérature francophone déjà, alors que vous êtes un auteur contemporain, tout jeune encore, et on est fasciné, on est captivé par vos histoires, même si parfois elles sont exigeantes et qu'on peut vous critiquer pour ça, mais c'est un grand succès partout, à chaque fois, dès que vous sortez un livre, les gens vont l'acheter.
Oui, enfin, pas partout, tout le temps, bah, calmons-nous.
Souvent, si.
Oui, non, mais c'est que dire de ça, c'est chouette, c'est une belle aventure. Peut-être aussi que le fait qu'il n'y ait aucun de mes romans qui se passe dans un appartement du 6e arrondissement avec parquet, moulure et cheminée et qui raconte l'histoire d'un couple qui se défait ou se refait, aide aussi les gens du monde à rentrer dans mes histoires, parce que du coup, c'est peut-être un peu plus ouvert.
Arrivé sur le boulevard Saint-Laurent, qui est un boulevard emblématique, qui traverse presque la ville. Il y a comme cela des axes à Montréal importants. Merci beaucoup Laurent Godet.
Merci Emmanuel.
Pour cette balade à Montréal. Merci de nous avoir accompagnés ici sur la place du Portugal, avec cette maison de Leonard Cohen, toute seule désormais, voilà. Et qui est un lieu de pèlerinage pour beaucoup de fans.
Mais qui, je pense, va rester longtemps un lieu de ferveur quand même.
Merci Laurent.
Au revoir.
Au revoir. On quitte Montréal pour la chronique des libraires et on commence par un hommage entre le coup de gueule et le coup de cœur Déborah Damblon en Belgique.
Eh oui Emmanuel, Jacques de Decker est décédé. Jacques de Decker, c'est un homme orchestre, c'était un touche-à-tout de la littérature. Il aimait qu'on l'appelle comme ça d'ailleurs. Il a plus fait pour les lettres belges, pour les auteurs de notre pays que n'importe qui d'autre. Il a été chef du service culturel au Soir, il a été chroniqueur, il a été secrétaire perpétuel de l'Académie royale, mais c'est aussi un poète, un auteur, un traducteur, un adaptateur, un ami fidèle, un découvreur de nouveautés. Il est irremplaçable et on verra plus jamais ses yeux pétillants, plus jamais son sourire en coin. Alors, ben juste, au revoir l'ami et bon voyage et on vous garde au chaud.
Merci Déborah pour cette émotion. Un coup de gueule au Canada, Josiane Letourneau.
Eh bien oui, la nouvelle est tombée il y a quelques jours. La librairie Olivieri, institution littéraire et intellectuelle unique, ferme définitivement ses portes après 35 ans d'existence dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Eh bien, je veux rendre hommage à leur fondateur, Yvon Lachance et Rina Olivieri, pour avoir créé ce lieu qui était bien davantage qu'un commerce. C'est un espace où tous les passionnés se retrouvaient pour célébrer le livre. J'y ai travaillé pendant 17 ans et je dois à ces gens d'avoir pu exercer le métier de libraire comme il m'a été possible de le faire dans ce lieu, avec une liberté, une curiosité nourrie, une soif de savoir. Bref, c'est une librairie avec un fond incomparable, fondé et animé par des libraires d'exception qui étaient convaincus de la qualité de passeur de ce métier. Et pour tout ça, ben je leur dis merci.
Voilà un drame, effectivement. La librairie Olivieri, où nous avions été, nous avions fait un reportage là-bas. C'était une librairie magnifique, je me souviens très bien. Un endroit génial, avec un bar à l'intérieur. C'est incroyable et c'est d'une grande tristesse, effectivement. Je m'associe à la tristesse de tous les Montréalais. Merci, Josiane. En Suisse, Claire Renaud, coup de gueule ou coup de cœur?
J'ai aussi un coup de gueule. Je rejoins tous les libraires d'ici ou d'ailleurs qui regrettent la fermeture des librairies. Ici en Suisse, les petits commerces dits « soins de la personne » ont pu ouvrir le 27 avril et j'estime que la lecture est tout aussi une thérapie et donc on devrait aussi classer les librairies dans « soins de la personne ». En fait, se procurer des masques et se laver les mains, se désinfecter, faire entrer les clients un à la fois n'est ni compliqué ni dangereux. Et je regrette donc les autorités qui n'ont pas su avoir cette évidence.
Voilà, c'est compliqué hein, en ce moment, c'est pas très gai effectivement. Cette chronique est plutôt triste hein, d'ailleurs cette semaine, mais il faut continuer, il faut tenir bon. C'est pas simple, c'est vrai que c'est pas simple. On pense à tous ceux qui travaillent, à tous ceux qui vont reprendre aussi le travail et qui vont petit à petit sortir du confinement, on l'espère, dans les meilleures conditions possibles. Merci à tous les libraires, merci à toutes, au revoir.
Au revoir, Emmanuel.
Merci à vous, bonne semaine à toutes. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal avec Kevin Pelot. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Stéphanie Valois et Christophe Magère en France et l'implication de la direction de France Inter. Jean-Marie Félix en Suisse pour la RTS. René Michels en Belgique pour la RTBF. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin pour Radio-Canada. À la semaine prochaine pour un nouveau grand voyage francophone et des invités toujours confinés à travers le monde. Merci pour votre fidélité et surtout pour vos messages qui nous parviennent nombreux en ce moment. Faites attention à vous surtout. Bon week-end.